Caroline Saurier, bonjour.
Bonjour.
Donc l'opéra, grand bateau qui vogue dans les eaux internationales.
Qui vogue, oui, dans les eaux internationales. En tout cas, c'est plutôt les bateaux de l'international qui viennent nous voir. Peut-être un petit peu ça. Donc avec des artistes qui viennent du monde entier, soit pour des productions d'opéra, où là, on a des distributions, bien entendu, internationales. Lorsqu'on aborde, comme l'année prochaine, ça va être le cas, une œuvre comme Eugène Onegin de Tchaïkovski, on a plutôt tendance à aller chercher des chanteurs qui font partie de cette culture russe, qui ont, ne serait-ce que pour la langue, la couleur de la voix, et c'est eux qui donneront aussi cette belle couleur à cet opéra. Et puis aussi, d'un autre côté, par exemple, pour les spectacles de danse, c'est important de pouvoir montrer à l'Opéra de Lille les grandes personnalités de la danse au niveau international avec leur compagnie. Donc c'est le cas de Sacha Valls et de personnalités comme celle-là, oui.
Donc ces grandes références sont aussi venues nous porter des messages, nous amener de l'air neuf, du sang neuf. Mais aussi l'opéra se consacre cette année à 3 nouvelles créations et accueille 22 propositions, c'est énorme.
Oui, ça a toujours été le projet de l'Opéra de Lille, qui est de ce point de vue-là très particulier, singulier par rapport à, aux opéras en France. C'est que nous avons fait le choix de proposer certes des opéras, et c'est la première mission de l'Opéra de Lille que de monter des opéras, mais aussi de faire d'autres types de propositions. Parce que je crois vraiment que ces propositions, la diversité de ces propositions, nous permet aussi de nous adresser à un public très diversifié. Et c'est ça qui fait la richesse. Par exemple, on vient d'avoir à l'Opéra de Lille les derviches tourneurs. Tous les ans, on a une proposition de culture qui vient d'ailleurs. Et cette ouverture à ces cultures, je crois que c'est extrêmement important parce qu'elle est le signe vraiment d'un opéra qui s'ouvre aussi à d'autres cultures et le signe aussi que tous les publics sont les bienvenus à l'Opéra de Lille. Donc c'est dans ce sens-là, en tout cas, que ça me semble effectivement très important d'avoir cette diversité. Et puis l'autre idée, c'est aussi de faire des propositions qui balayent tout le spectre de l'histoire de la musique. Donc de la musique baroque jusqu'à la musique contemporaine.
Alors cette année, pour la première fois, c'est un événement à l'affiche pendant 10 jours, un grand spectacle que tout le monde peut-être attendait.
Oui, certainement, parce que ça n'a pas été joué depuis 15 ans. À Lille, donc ce qui est quand même voilà, une attente certainement. Il s'agit de Carmen de Bizet, donc ça fait partie effectivement des œuvres célébrissimes comme il y en a très très peu, hein, je crois, qui connu de tout le monde, ou en tout cas chacun a l'impression de connaître cette œuvre de Bizet. Donc c'est un défi aussi pour nous de nous attaquer à comme ça un chef-d'œuvre aussi célèbre. Il faut pouvoir faire une proposition un peu renouvelée, il faut pouvoir oser s'attaquer à des chefs-d'œuvre comme cela.
Avec Jean-Claude Casadesus, quand même.
Oui, alors avec Jean-Claude Casadesus, alors pour lui, c'est pas une découverte. Il l'a déjà dirigé plusieurs fois, hein, dont d'ailleurs à l'Opéra de Lille il y a 15 ans, justement. Donc il connaît bien cette œuvre. Mais aussi avec Jean-François Civadier, donc, qui est un metteur en scène fidèle de l'opéra, qui a fait plusieurs productions ici et qui est vraiment quelqu'un de grand talent. Et puis, alors là, ça va être une vraie découverte, puisque c'est Stéphanie Doustrac, qui était l'interprète de la Péricole en janvier dernier, qui va tenir ce rôle de Carmen. Ce sera la première fois qu'elle va chanter ce rôle. Et là, je crois que ce sera vraiment une très très belle découverte parce que c'est une personnalité magnifique.
Voilà, donc un gros événement populaire à côté d'autres qui sont peut-être plus intimistes. Enfin, intimistes à l'échelle de l'opéra, ça représente quoi ?
En général, nos salles se situent entre 600. Pour des spectacles de danse où, par exemple, on supprime la vente de toutes les places de côté de façon à garantir une bonne visibilité. Pour l'opéra, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, même si on ne voit pas toute la scène, on entend quand même l'opéra, on peut voir l'orchestre. Enfin bon, on arrive à peu près à profiter du spectacle. Pour un spectacle de danse, si on ne voit pas ce qui se passe sur le plateau, là, vraiment, c'est impossible. Donc, effectivement, on réduit soit à 800, soit parfois même à 600 places, et puis jusqu'à 1130 places exactement donc pour les opéras.
Malgré donc cette nécessité d'avoir un certain niveau de public, vous prenez des risques chaque année. Il y en a eu cette année. Est-ce que pour l'année prochaine, vous attendez à parfois des moments où le public sera provoqué, où vous irez le chercher un peu plus difficilement ?
Alors oui, il nous arrive évidemment d'avoir un peu plus de difficultés à aller chercher le public lorsqu'il s'agit de musique contemporaine, de propositions de danse contemporaine avec des artistes pas connus. C'est bien entendu, oui, c'est notre travail que d'aller dire à la population de la région, mais venez voir, vous verrez, c'est très intéressant. Et ça, c'est notre force de conviction qui fait que le public ensuite vient. Des propositions qu'on peut faire qui soit déroutante, je dirais que c'est pas non plus un objectif en soi. C'est pas l'objectif de dérouter le public, mais c'est vrai qu'un artiste qui fait une création aujourd'hui nous emmène parfois un petit peu loin dans son univers, surtout dans des territoires un peu inconnus, qui repoussent un peu les frontières de ce que c'est qu'un spectacle de danse, ou en tout cas de l'idée qu'on s'en fait. Parfois aujourd'hui, des spectacles de danse présentent un spectacle sur scène où il n'y a pas de mouvement, en tout cas tel qu'on peut l'imaginer dans un spectacle de danse, où ça se passe d'une autre façon, et pourtant c'est bien de la chorégraphie, et ça il le revendique tout à fait, et j'en suis convaincue. Mais donc ce sont des artistes qui effectivement renouvellent complètement le langage de la danse, qui évolue en permanence, donc c'est vrai que parfois il peut y avoir des propositions qui sont déroutantes. La saison prochaine, on aura beaucoup d'œuvres qui ont déjà été créées, donc on connaît déjà, on connaît déjà le résultat, donc on sera de ce point de vue-là relativement rassuré, donc on part serein.
L'idée d'associer Jérôme Bell, donc plutôt à Paris, et Anne-Thérèse de Kersmaeker, que l'on connaît tous dans notre région, et bien sûr Benelux, c'est aussi cette idée d'avoir un point d'appui pour que le public s'engage vers d'autres expériences.
Ça, c'est le fait de la présence de Jérôme Bell, c'est vraiment une demande d'Anne-Thérèse de Kersmaeker, qui est allée chercher Jérôme Bell. Et c'est ce que je trouve extraordinaire chez cette femme qui n'a plus rien à prouver en termes de parcours chorégraphique et de création. Elle est allée chercher Jérôme Bell et effectivement, je suis impatiente de savoir pourquoi, effectivement. Alors, on sait à peu près pourquoi, effectivement, mais parce qu'il y a cette présence de la musique et qu'elle veut une présence des musiciens qui ne soient pas seulement des musiciens qui sont derrière leur clavier ou derrière leur instrument, mais qui participent aussi au jeu. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup cette présence-là qui, pour elle, était importante. Et on connaît les propositions de Jérôme Bell qui sont toujours un peu décalées, toujours avec beaucoup d'humour, avec une espèce de présence comme ça, d'un humour un peu grinçant comme ça. Et qu'il se moque un peu, oui, de lui-même. Il a plutôt, lui, une vision, effectivement, de ce désordre du monde, mais dont il se moque, finalement, pour faire passer son message. Donc, Anne-Thérèse de Kersmaeker avait envie de ça. Effectivement, ce n'est pas une personnalité, Anne-Thérèse, qu'on connaît pour son humour dans ses spectacles. Hein. Elle n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc, oui, c'est en tout cas une proposition qui m'a beaucoup plu. Je dirais que ce qui me plaît surtout, c'était que cette proposition venait d'Anne-Thérèse. Et qu'une fois de plus, elle nous surprend en allant chercher cette collaboration avec Jérôme Bell. C'est surtout ça qui m'a intéressée, mais ce n'est pas moi qui les ai mis ensemble.
Alors une dernière information, bien sûr, on connaît maintenant tous les Happy Days, il y aura les Happy Times maintenant.
Oui, effectivement, on s'est amusé à décliner les Happy Days, et surtout qu'on avait envie de trouver des moments qui soient un petit peu moins contraignants, parce qu'un Happy Day, ça veut dire mobiliser toute la maison pendant une semaine pour toute l'installation. Donc c'est des moments qui sont un peu rares quand même dans le calendrier, qu'on a du mal à trouver, qu'on peut difficilement multiplier, qui sont un peu contraignants et pas toujours du coup satisfaisants. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi pas finalement proposer au public plutôt un 16-18 heures le samedi. Voilà, on va faire ses courses et puis on vient faire un tour à l'opéra et puis on repart. Et au moment des productions lyriques, où là les artistes des productions peuvent présenter un petit concert, peuvent présenter l'œuvre, peuvent faire une lecture du texte, peuvent faire des propositions un peu différentes, une masterclass aussi qu'on aura. Donc là, les programmes détaillés seront publiés plutôt à la rentrée. Mais c'est l'idée d'avoir un rendez-vous qui reste toujours dans cet esprit très convivial des Happy Days et festif aussi. Mais toujours aussi avec le point de départ d'un contenu artistique qui doit être prioritaire avant même de se promener dans l'opéra.
Merci Caroline Sourier pour cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage proposé par l'Opéra pour 2009-2010.
Merci à vous.